Double Face, Valérie Ogier.
Lionel Bayard, on va parler de votre film La Cache, une chronique de mai 68 dans les yeux d'un garçon de 9 ans qui se cache chez ses grands-parents. Pendant que l'on vit ce que l'on nomme les événements, ce film est le dernier rôle de Michel Blanc. Alors forcément, ça donne un angle de vue particulier à la sortie de ce film. Il y a une émotion particulière, il y a une pression particulière pour en parler désormais.
C'est toujours, on a l'impression qu'on porte la responsabilité seule d'un film qu'on a fait en commun. Et puis, personnellement, la tristesse de ne pas pouvoir lui rendre le film qu'il m'avait prêté, d'une certaine façon, quand les comédiens jouent devant votre caméra, c'est qu'ils vous confient quelque chose d'eux, et c'est comme une lettre qu'ils vous envoient, et vous espérez un jour, vous avez l'espoir, vous montez même le film comme une réponse, comme une sorte de retour de ce qui vous a été donné, de donner à nouveau ce qui vous a été prêté, peut-être, d'une certaine façon. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on m'a déposé quelque chose dans les mains, que je l'ai fait fructifier, je l'espère, et que j'aurais bien voulu qu'il puisse le voir. Donc ça teinte la sortie du film évidemment de quelque chose d'un peu nostalgique, et en même temps tous les soirs je me dis c'est quand même formidable le cinéma, parce que il est vivant en fait pour les gens qui vont aller voir le film la semaine prochaine en Suisse. Tous les soirs ils découvriront Michel Blanc dans quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu jouer, et même dans les films dans lesquels on l'a déjà vu jouer, c'est-à-dire si vous regardez pour la énième fois Les Bronzés, vous allez, parce que vous vieillissez avec le film, découvrir autre chose. Il va vous parler de façon différente dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et c'est ça que je trouve beau avec le cinéma, c'est que je me dis vraiment tous les soirs il est en présence, et peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne l'ont jamais rencontré, sa mort c'est quelque chose de très lointain, parce qu'il n'a jamais été vivant mort, il a été toujours vivant sur un écran, il est toujours vivant sur un écran, sauf qu'il n'y aura pas de nouveaux films, mais chaque film que l'on revoit à un autre moment de sa vie est d'une certaine façon un nouveau film, donc il est vivant.
Et ça va jusqu'à la dernière scène, sans la spoiler, qui est emblématique au fait, qui est symbolique de ce mouvement justement qui sera toujours là.
Oui, c'est assez troublant. C'est une scène, on spoile rien, en disant qu'il marche sur le bord d'une route en chantonnant avec un petit garçon qui est l'autre héros du film. Mais c'est une scène particulière parce qu'on l'a tournée sans savoir ce qu'on était en train de tourner. En fait, on ne savait pas que ce serait le dernier plan de sa filmographie. À l'époque, c'était en avril de l'année passée, il était tout à fait en bonne santé. Et c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'on l'entend chantonner, il chantonne du Brahms. C'est que c'est quelqu'un qui aurait voulu être musicien, il aurait voulu être pianiste classique. Et quand il est arrivé au lycée Pasteur, il a rencontré Gérard Jugnot qui, lui, allait à la Cinémathèque, voulait être réalisateur, et c'est un petit peu Jugno qui l'entraînait en fait d'abord à aller voir des films, et puis ensuite ses autres camarades du Splendide qui faisaient du théâtre, et il s'est rendu compte en fait qu'il avait un talent pour faire rire et qu'il savait écrire. Il a écrit un court métrage très vite quand il avait 16-17 ans, et donc le cinéma l'a comme fait changer de piste, mais il aurait voulu être musicien classique, et donc qu'il finisse sa carrière en chantonnant du Brahms, c'est complètement incroyable, parce qu'en fait il finit par faire ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire être plutôt musicien.
La boucle est bouclée en quelque sorte.
C'est très bien d'avoir de l'imagination. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui parfois en manque un peu.
C'est un film formidable pour ceux qui aiment la famille. Et qui peut être étouffant pour ceux qui se disent pourquoi la famille, ça peut être aussi envahissant.
C'est vrai.
Ça fait résonance avec votre histoire.
Ah oui, puis je pense que vous l'avez bien dit, c'est-à-dire on peut, je crois, à la fois, ce qui est très sain, c'est à la fois d'avoir de l'affection pour sa famille, la trouver étouffante. Ce qui est mon cas, c'est-à-dire on dit, je crois que 80% des crimes sont commis dans votre famille. Il n'y a pas d'endroit plus dangereux qu'une fête de fin de une fête de fin d'année. Vous êtes plus sûr, c'est plus sûr d'aller dans le Bronx la nuit que d'aller chez vos parents pour Noël, où il y a vraiment beaucoup de chances d'être tué quand même globalement ou agressé. Et le film raconte un peu ça, c'est-à-dire à quel point la famille peut être une source de névrose. C'est quand même des gens, les Boltanski dans le film, qui vivent tous ensemble. Ils dorment tous dans la même chambre, même des adultes de 30-35 ans dorment au pied du lit de leurs parents. Le fils Christian de 22-23 ans dormait des fois dans le lit de sa mère. Enfin, tout ça, quand on le lit de l'extérieur, on se dit, mais quelle horreur, quoi. Quelle source horrible de problèmes psychologiques à venir. Et puis, en même temps, il y a une sorte de cohérence et de cohésion entre eux. Et puis, une entraide qui est quand même assez fondamentale. Mais je crois qu'elle est comme toutes les sociétés humaines. La famille, c'est la première société humaine que vous rencontrez. Et elle est à l'image des autres. C'est-à-dire, elle est à la fois très, très belle. Et puis, en même temps, il faut arriver à s'en détacher pour être un individu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société, on est tous très individualistes. Cette idée de la famille comme un tout, puisqu'il disait qu'ils étaient comme un grand corps, qu'ils vivaient tous les uns avec les autres, c'est vraiment assez contre-intuitif par rapport à notre désir de bonheur, qui serait plutôt d'être seul, de pouvoir se débrouiller tout seul.
Et en même temps, cette solidarité, elle rassure, et on la voit vraiment, cette solidarité de la famille sur grand écran. Il y a ce terme magnifique de l'arrière-pays pour désigner l'aïeul, et c'est tellement beau comme symbole, tellement parlant, ça vous l'avez pioché directement dans le livre ?
C'est pas dans le livre, non, c'est une invention, l'arrière-pays. Elle existe, le personnage existe, ouais. Hein, il s'appelle Niania dans le livre de Christophe Boltanski, c'était son arrière-grand-mère qu'il n'a pas connue, mais il la recompose son portrait à travers ce qu'on lui a raconté, et puis une grande-tante qui était présente quelquefois à la maison. Non, l'arrière-pays, c'est une invention, en fait, le terme est une invention.
La vôtre ?
Oui, d'où c'est venu, je peux pas vous dire, ils ont tous des noms qui sont des noms, la grand-mère s'appelle mère-grand, père-grand, grand-oncle, petit-oncle, et je me disais, elle, comme elle comprend toujours tard pour barre, et qu'elle comprend pas tout, elle avait entendu arrière-papy, parce qu'elle avait, elle dit avoir fait du bridge avec l'arrière-petit-fils de Molière, puisqu'elle est, c'est une affabulatrice, et puis elle avait pas compris, elle a entendu arrière-pays, et c'est resté. Et en même temps, c'est très juste, parce que il y a cette idée que l'arrière-pays, c'est ce qui suit l'endroit qui est touristique ou qui est visible, l'arrière-pays vaudois, ce sera le gros de veau, que sais-je, etc., et on dira que la Riviera est le devant, et en fait, c'est quelque chose qui vient de très loin, qu'on apporte avec soi, et comme elle vient avec la Russie, en bandoulière, puisque c'est des immigrés russes, juifs russes, les Boltanski, elle vient avec ça sur ses épaules, elle raconte le pays qui est derrière vous, il y a toujours un pays derrière vous, et donc ça raconte l'endroit d'où vous venez avant de venir vous établir ici. Je trouve que le terme était très beau et très juste à concernant.
La Cache est sortie depuis mercredi dans les salles de cinéma, et Lionel Bayer, son réalisateur, est notre invité dans Double Face, justement.